partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à tous, Jacqueline Vorras sur Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue sur le plateau de l'économie en direct sur Radio IDFM 98 ou 98.fr. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, vendredi 10 juin, au sommaire, à deux jours du premier tour des élections législatives, nouveau brief de campagne en présence d'une candidate pour la 6e circonscription du Val-d'Oise et juste après, mise à l'honneur de la CPME du Val-d'Oise. Pour en parler, deux entrepreneurs engagés dans cette confédération des petites et moyennes entreprises. L'occasion pour nous de découvrir leur activité professionnelle, leur responsabilité au sein de la CPME 95 et aujourd'hui leur action pour découvrir ensemble le lancement du club export de cette structure du Val d'Oise. J'ai ainsi le plaisir d'accueillir Nathalie Elimas. Bonjour Madame Elimas.
Bonjour.
Nathalie Elimas, vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, députée sortante de la 6e circonscription du Val d'Oise, qui regroupe 8 communes, Andilly, Deuil-la-Barre, Enghien-les-Bains, Margency, Montmagny, Saint-Gratien, Sannois et Soisy-sous-Montmorency. Vous briguez aujourd'hui un nouveau mandat, une candidature libre, et nous verrons pourquoi. Votre suppléant est Monsieur David Alves. Vous nous dévoilerez les raisons de votre candidature et les grands axes de votre engagement. À vos côtés, Thierry Poignant. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir sur notre plateau. Thierry, vous êtes le fondateur et président de PBD.com, c'est pas facile à dire, une entreprise qui distribue et exporte un produit d'exception. Et au sein de la CPME 95, vous êtes le vice-président commerce. Vous nous détaillerez votre activité à la fois en tant que PBD.com et vice-président commerce CPME. Et bien sûr, nous découvrirons votre expertise pour exporter encore mieux, je crois. Thierry Poignant, je précise que j'avais eu le plaisir de vous recevoir en 2018 en compagnie de Michel Jonker, président du MEVO. On va dire qu'il y a prescription et qu'on va pouvoir dérouler à nouveau tout votre parcours professionnel. Et à vos côtés, Yves Sageot. Bonjour Yves.
Bonjour.
Également, merci d'être à nos côtés. Vous êtes le président de Roth Taverny SAS, une entreprise industrielle dont nous découvrirons également l'activité. Et pour la CPME 95, vous êtes le référent Club Export. Et nous avons hâte, bien sûr, d'en savoir plus sur ce titre et sa fonction. Avant de vous donner la parole, Madame Elimas, j'ai un communiqué de presse à lire. Donc, il concerne une manifestation qui aura lieu dimanche. Après deux ans d'absence due à la crise sanitaire, le Rotary Club de Saint-Gratien organise ce dimanche 12 juin son 22e trophée de l'espoir avec un grand tournoi de golf au golf de Bellefontaine. Une action au profit de Élise, princesse courageuse. Cette petite fille, élève de l'école Saint-Louis-Sainte-Thérèse d'Enghien-les-Bains, et qui avait rencontré Madame Macron et le président de la République Emmanuel Macron pour les interpeller sur le cancer pédiatrique, est décédée le 16 juillet 2019. Depuis, ses parents poursuivent le combat qu'elle menait à travers la fondation Élise, princesse courageuse. Que vous soyez donc golfeur ou non, rendez-vous au golf de Bellefontaine pour une journée pleine de surprises. Pour plus de renseignements, contactez directement le golf de Bellefontaine au 01 34 71 05 02. Alors, juste avant de vous interviewer sur votre candidature, Madame Elimas, je crois que vous souhaitiez commenter ce communiqué de presse.
Absolument, parce que je connais bien cette association, Élise Princesse Courageuse, je connais bien sa famille également. Comme vous le savez peut-être, je suis l'auteur d'une loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques qui a été votée à l'unanimité et qui est entrée en vigueur en mars 2019. Et cette loi, je l'ai écrite pour Élise, en travaillant avec la famille d'Élise, en travaillant aussi beaucoup avec l'hôpital d'enfants de Margency, qui est un établissement sur la circonscription, que je connais de longue date. Je veux absolument pas politiser les choses, mais voilà, je connais vraiment bien cet établissement, bien la famille d'Élise. Et c'est avec eux que j'ai écrit cette loi, donc qui est entrée en vigueur en mars 2019. La petite Élise nous a quittés quelques mois plus tard. Et cette loi, la loi Elimas, eh bien, avec Vanessa et Franck, les parents d'Élise, nous l'avons rebaptisée la loi Élise. Donc voilà, le hasard fait presque les choses.
C'est extraordinaire, oui.
C'est extraordinaire.
Parce que nous ne savions pas l'une et l'autre.
Absolument. Et qui, chez nous, ici, n'a pas entendu parler des petits amis d'Élise? Vous savez, ces petits bonshommes qu'elle fabriquait, ces porte-clés. Élise était d'une maturité incroyable. C'était une petite fille formidable. Et qui militait, si jeune, pour un monde meilleur. Voilà, donc je suis très heureuse de vous entendre parler de cette manifestation. Et bien sûr, il faut y aller pour soutenir la cause et pour vraiment, vraiment recueillir des dons pour lutter contre ces cancers pédiatriques.
Complètement, parce que toutes les inscriptions qui seront faites ce jour-là seront reversées intégralement à la Fondation Élise Princesse Courageuse. Merci Madame Elimas pour cette mise au point. Alors là, comme promis, je vous reçois en tant que candidate. Donc merci d'avoir choisi IDFM 98 pour vous exprimer. Vous êtes donc la députée sortante de la 6e circonscription du Val-d'Oise, candidate à votre propre réélection sous la bannière de la majorité présidentielle, mais sans investiture officielle. Face à vous, 8 autres candidats, dont Madame Estelle Follest, candidate, elle, officielle de la majorité présidentielle. Alors, je voudrais préciser que nous avons reçu des candidats tout au long de la semaine et que pour que le temps de parole soit égal, vous aurez environ 12 minutes pour vous exprimer. Donc, Nathalie Elimas, merci de nous rappeler votre parcours et de nous dire pourquoi cette candidature aujourd'hui.
Écoutez, je suis, vous l'avez dit, la députée sortante de la circonscription. J'ai été élue en 2017 sous la bannière, l'étiquette de la majorité présidentielle. 3 ans députée à la commission des affaires sociales, auteur d'une loi, de 5 rapports, de nombreux travaux. Et puis 2 ans secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire au ministère de l'Éducation nationale auprès de Jean-Michel Blanquer. Et je reviens aujourd'hui sur la circonscription. En effet, je n'ai pas eu l'investiture, sans doute au gré de petits arrangements politiciens, comme cela arrive malheureusement, et ce qui détériore justement l'image de la politique que peuvent s'en faire les Français. Et en effet, je n'ai pas l'investiture. Pour autant, eh bien, j'ai la légitimité, j'ai un bilan parlementaire, un bilan ministre, un ancrage. J'habite ce territoire depuis toujours. J'ai eu 49 ans il y a quelques jours, je vais vous laisser compter. Je suis arrivée ici, j'avais 4 ans. J'ai fait mes études. J'étais à l'école primaire ici à Enghien, au groupe d'Ormesson, au collège, au lycée Gustave Monod. Je me suis mariée ici, j'ai travaillé ici. Mes enfants sont nés ici. Bref, je suis l'enfant du pays. Et donc, c'est tout naturellement que je me représente devant les électeurs. Vous savez, moi, je suis très opposée par principe au parachutage. Et là, je suis en colère. Je suis en colère parce que je n'ai rien contre la personne, mais c'est un parachutage parisien qui n'habite pas le territoire, qui est venu faire campagne 3 week-ends sur la circonscription, qui nous dit « je pourrais venir parce que j'ai une carte Navigo 5 zones ». C'est vraiment se moquer des électeurs. Voilà. Donc, évidemment que je maintiens ma candidature, fière de défendre mon bilan et surtout avec des propositions très concrètes pour notre territoire. Encore une fois, un territoire que je connais. Je vais continuer à agir, à œuvrer pour les habitants de la 6e circonscription, comme je l'ai fait pendant ces 5 dernières années. Je prends un exemple, le commissariat de Deuil-la-Barre. On avait tant de difficultés à faire sortir de terre. Et bien, moi, je suis allée voir le ministre de l'Intérieur parce que je connais bien mon territoire. J'ai posé clairement les problématiques et ce commissariat est sorti de terre. Et il y a eu cette inauguration en février dernier. Des exemples comme celui-ci, j'en ai beaucoup d'autres. Donc, voilà, je suis là, je suis fière de défendre cette candidature qui est libre parce que je ne suis pas investie officiellement. Pour autant, je précise que je suis fidèle et loyale au président de la République. J'ai servi pendant 5 ans. Il n'y a aucune raison que je ne continue pas sur cette ligne-là. Et si le 19 juin prochain, je suis réélue, je siégerai naturellement dans la majorité présidentielle auprès du président de la République pour l'aider à mettre en place les réformes dont nous avons tant besoin, avec, c'est vrai, vous l'avez dit, une singularité qui est ma liberté. Parce qu'effectivement, je n'ai pas l'investiture, donc je n'ai pas signé non plus cette fameuse charte que l'on a fait signer à la plupart des candidats investis et qui s'engage à un certain nombre de choses. Moi, je garde ma liberté, je suis en soutien plein et entier du président de la République, mais quand les choses n'iront pas dans le bon sens, eh bien, j'aurai la liberté de dire non et éventuellement de ne pas voter, ou en tout cas d'amender et de faire des propositions sur le texte.
Donc on a bien compris que c'est une candidature qui est plus une divergence de fond que d'étiquette.
Pas une divergence de fond. À l'origine, c'est vraiment une histoire d'appareil. Ce sont les appareils qui m'ont refusé l'investiture. Ça n'est pas le président de la République. Vous savez, il y a des gens qui s'amusent à salir mes affiches électorales. D'ailleurs, je rappelle que c'est un délit et que c'est passible d'une amende de dégrader les affiches sur les panneaux électoraux. On a écrit sur mes affiches virées par Emmanuel Macron. Déjà, c'est pas très élégant, non. Mais bon, voilà, ceux qui font ça en général ne sont pas très élégants. Je n'ai pas été virée par le président de la République comme je le lis ici ou là ou comme je l'entends. Appareils qui ne m'ont pas donné l'investiture. Mais je vais vous partager un secret parce que voilà, je l'ai sur le bord des lèvres depuis quelques jours. J'échange avec le président de la République et pas plus tard que le 17 mai dernier, j'ai reçu un courrier du président de la République daté du 17, quelques jours plus tard, qui n'avait rien à voir avec ce que je lis ou ce que j'entends ici ou là. Le président de la République me remerciait pour mon travail, reconnaissant la force de mon engagement. Ça veut dire quelque chose. C'est un courrier privé, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, encore une fois, en fidélité, en loyauté, je veux continuer à travailler pour le président de la République, pour la France et pour les Français.
Alors, merci de ces précisions. Il est quand même important peut-être de dire, et puis ça vous permettra de faire le point, que vous avez quitté le gouvernement parce que vous avez subi une plainte pour harcèlement moral.
Non, il n'y a pas eu de plainte.
Il n'y a pas eu de plainte du tout. Alors, expliquez-nous.
Il y a eu un procès médiatique, un gros procès médiatique en début d'année dernière, suite effectivement à une enquête administrative qui a été menée au sein de mon cabinet ministériel totalement à charge, avec des accusations qui sont particulièrement graves. J'ai été accusée de harcèlement et de maltraitance. Pour autant, je précise que, outre ce procès médiatique d'une grande violence et organisé par une certaine presse, il n'y a pas eu une seule plainte déposée contre moi. Il n'y a pas eu d'arrêt maladie, il n'y a pas eu d'hospitalisation de mes collaborateurs, il n'y a rien eu. C'est une enquête administrative qui a été menée à charge. Aujourd'hui, il y a une plainte qui a été déposée, une seule, c'est la mienne. J'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre X, dans un premier temps. Pourquoi contre X ? Parce que dans ce rapport, même si en le lisant, je reconnais les conseillers qui ont témoigné à charge, et le rapport est caviardé, donc il est totalement anonymisé. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que les coups que j'ai pris médiatiquement ont été aussi portés sous couvert d'anonymat. Donc, puisque ces gens qui m'attaquent n'ont pas le courage, d'aller déposer une plainte quand on prétend avoir subi de telles agressions, de telles violences, et deux, de dévoiler leur nom, moi, j'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est la seule plainte qui ait été déposée. Je précise que je ne suis pas mise en examen, que je n'ai pas été entendue, que je n'ai pas été convoquée, que je n'ai pas été auditionnée, pas mise en examen et encore moins condamné. Et effectivement, dans cette affaire, je vais vous dire ce que je ressens profondément aujourd'hui, c'est un deux poids deux mesures. Je ne sais pas si cette affaire ou ce sujet-là a compté dans le fait de ne pas me donner l'investiture. En tout cas, quand je regarde les gens qui ont été investis, eh bien bon nombre ont des affaires. Bon nombre sont mis en examen et pour autant, ils n'ont pas été privés d'investiture au nom de la présomption d'innocence, ce qui est très juste.
Oui,
ce
absolument.
Qui est très juste. Il y a certains ministres également qui sont mis en examen et qui restent ministres au nom de la présomption d'innocence. Eh bien, moi, je pose une question très simple aujourd'hui. Pourquoi ? Pas moi. Pourquoi ? Le principe même de la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental en droit, ne s'applique pas pour ma situation. Donc, c'est une raison supplémentaire qui a vraiment et qui motive ma candidature.
Oui, voilà, qui vous pousse encore plus à vous présenter. Écoutez, il me semble que c'était très important que vous fassiez cette mise au point. Alors donc vous dites avoir la conviction que le projet du président de la République est bon pour notre pays. Quelles sont les grandes lignes que vous retenez de ce projet ?
Alors déjà, je reviens sur le quinquennat précédent parce qu'Emmanuel Macron avait pris bon nombre d'engagements. On a fait énormément de réformes, mais le quinquennat passé a été aussi très particulier, entaché par la crise des Gilets jaunes et entaché notamment par une crise sanitaire sans précédent que nous avons gérée au mieux. En tout cas, moi, au ministère de l'Éducation nationale, je rappelle quand même que les écoles sont restées ouvertes, que c'est une exception française et vraiment c'est même une fierté française. Le président de la République aujourd'hui s'est engagé à changer de méthode. Je reviens sur la crise des Gilets jaunes et les enseignements que nous devons retenir de cette crise des Gilets jaunes qui est une crise aussi démocratique. Il s'est engagé à changer de méthode, c'est ce que nous allons faire. Et moi-même, puisque j'ai écrit un programme pour me présenter devant les électeurs. C'est un programme qui marche bien sur ses deux jambes. Évidemment, en soutien du président de la République, quand notamment on annonce qu'on va agir fort pour redonner du pouvoir d'achat aux Français à travers le maintien du bouclier gaz et électricité, à travers l'indexation des retraites, à travers la suppression de la taxe d'habitation, etc. Toutes ces mesures du président de la République, je les soutiens. Mais moi-même, sur le territoire, j'ai construit, bâti un projet en écoutant nos concitoyens sur les marchés, dans les rues, pour vraiment faire quelque chose qui soit le plus proche de ce qu'ils souhaitent voir concrètement en réalisation dans leur vie de tous les jours. Tout simplement.
Alors, vous comprendrez quand même bien que les électeurs puissent se poser la question de votre candidature et de celle de l'autre personne, Estelle Foleste.
Oui, je comprends, puisqu'effectivement, sur mon affiche électorale, il est écrit « Tous ensemble avec Emmanuel Macron ». Encore une fois, si vous avez bien saisi sens de ma candidature, absolument, je suis un soutien loyal et fidèle au président de la République et je n'ai pas reçu l'investiture. Ce qui nous différencie fondamentalement, ce n'est pas le fait de vouloir travailler pour la majorité, ça c'est très clair, c'est que l'une est parachutée sur le territoire, l'autre vit ici. Quotidiennement. Je n'ai jamais déménagé de la circonscription. J'ai habité Enghien, j'ai habité Soisy, j'ai habité Margency, aujourd'hui j'habite à Andilly. J'ai toujours vécu ici. Cette circonscription, ce territoire, je le connais. Les gens, je les connais.
C'est la vôtre.
Je vis avec eux. Je suis chez moi. Vous savez, moi j'ai 4 enfants. Les difficultés pour faire garder son enfant, pour trouver une place à la crèche, je les connais. Les difficultés de transport quand il faut se rendre à Paris, que ce soit en voiture ou en transport en commun, je les pratique. Les nuisances aériennes, c'est un point fort de mon programme. La lutte contre les nuisances sonores et aériennes, je les connais. J'ai un petit bout de jardin. Quand je suis dehors, et bien comme tout le monde, je vois passer les avions, je les entends. Ça, je le vis au quotidien. Je suis en capacité, en situation de pouvoir travailler et apporter des réponses. Et je profite d'ailleurs de votre antenne pour dire que les Valdoisiens me font confiance à nouveau, je vous ai parlé du pouvoir d'achat, c'est la principale préoccupation. C'est le premier sujet dont on me parle systématiquement quand je vais sur les marchés, sur les gares, etc. Eh bien, les Valdoisiens me font à nouveau confiance le 19 juin prochain, je les réunirai, je ferai une grande réunion publique le 30 juin. Pourquoi le 30 juin ? Parce que le 29, le texte sur le pouvoir d'achat va être présenté, déposé sur le bureau du Conseil des ministres. Le texte va être présenté. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je m'engage à davantage de démocratie participative, à travailler mieux et plus avec nos concitoyens. Eh bien, dès le 30 juin, j'organiserai cette réunion publique. Je présenterai les grandes lignes du texte et nous l'amenderons ensemble avec les propositions de nos concitoyens. Je serai donc leur voix à l'Assemblée nationale.
Très bien, merci beaucoup Madame Elima. J'allais vous poser la question, mais vous y avez répondu, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, une question que je pose aux candidats qui viennent. Moi, électrice de la 6e circonscription, pourquoi devrais-je voter pour vous ?
Eh bien, enfin en tout cas, je vous invite à voter pour moi, je vous invite à voter pour une femme libre, une citoyenne, une mère de famille comme vous, habitante du territoire, pour une élue qui sera, j'allais dire, entre guillemets, opérationnel dès le lundi 20 juin au matin, parce que expérimenté, parce que connaissant l'Assemblée nationale, le mode de fonctionnement, une femme qui se présente, encore une fois, librement, sans étiquette, avec la seule volonté, la seule conviction qui est celle de servir, encore une fois, librement les Valdoisiens avec conviction et sincérité.
Merci beaucoup, Madame Limas, pour votre discours parfaitement clair. Candidate libre pour les élections, les prochaines élections législatives du 12 et 19 juin dans la 6e circonscription du Val d'Oise. Et vous avez comme suppléant Monsieur David Alves. Nos auditeurs et auditrices et vous, Madame Limas, vous pourrez retrouver, comme vous le souhaitez, votre interview dans son podcast mis en ligne sur notre site idfm98.fr. Alors, nous allons marquer une pause. Je crois que vous pouvez rester un petit peu avec nous si vous
Absolument,
voulez participer
avec plaisir.
Au débat. Donc, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ciao sur IDFM 98 ou 98.fr, c'est l'économie en direct. Si vous nous rejoignez à l'instant, après avoir entendu Madame Elimas, candidate sortante de la 6e circonscription du Val d'Oise, nous allons maintenant aborder ensemble le prochain lancement du club export de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Val d'Oise, en compagnie de mes deux autres invités. Thierry Poignant, donc rebonjour Thierry.
Rebonjour.
Merci de nous accompagner ce matin. Donc Thierry, vous êtes le fondateur et président de PBD.com.
une entreprise qui distribue un produit d'exception, je l'ai dit, de l'Armagnac. Et au sein de la CPME 95, vous êtes le vice-président commerce. Alors, Thierry Poignant, je voudrais que vous nous expliquiez votre activité et puis votre rôle au sein de la CPME.
Bonjour, donc effectivement je suis président de la société PBDcom, société de négoce et de distribution d'Armagnac, créée depuis 8 ans maintenant, où j'ai développé certains produits d'exception, et pour aller encore plus loin dans l'exception, puisque je propose également de l'Armagnac brut de fût, qui est un produit exceptionnel, et je peux proposer plus de 120 ans de millésime. Donc, votre année de naissance, je peux fournir.
Vous pouvez nous la présenter.
Voilà, petit.
Vous, j'espère que vous faites pas une analogie avec les 120 ans, quand même.
Non. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui est né en 1888, si vous voulez lui faire un dernier cadeau, peux fournir la bouteille. Tardez pas, quand même.
Oui.
Donc voilà, et effectivement, l'idée est de proposer des produits d'exception. On est sur des produits, ce qu'on appelle le luxe à la française, qui a encore sa réputation.
De beaux jours devant lui.
Sa tenue dans le projet économique. L'idée aussi sur l'export. Effectivement, je fais très peu d'export. J'ai fait quelques coups ponctuels, mais je crois qu'aujourd'hui les entreprises ont besoin d'élargir leur marché.
Oui.
Il faut quand même reconnaître que les entreprises, même si effectivement il y a eu des lois et des actions pour soutenir les entreprises pendant la période Covid, les entreprises ont énormément souffert. Alors effectivement, on a une reprise aujourd'hui. Sauf que la reprise aujourd'hui, il faut quand même combler les un an et demi de trous de trésorerie, de l'argent qui n'est pas rentré, et puis attaquer le remboursement du PGE.
Ça va être très
compliqué. Mmh. Et on a quand même des inquiétudes à ce sujet sur le maintien des entreprises. Effectivement, on a eu beaucoup moins de dépôts de bilan en 2020. Mais là aujourd'hui,
oui, parce que
il va y avoir du dégât.
Les entreprises étaient sous perfusion, selon l'expression consacrée.
Ouais. Et donc en fait l'idée de ce, donc je suis, comme vous l'avez précisé, vice-président de la CPME en charge de la section commerce, c'est nous avons décidé de lancer un club export. C'est-à-dire l'idée est vraiment d'élargir le marché.
On y reviendra après,
d'accord,
si vous voulez, Thierry,
voilà,
parce que je voudrais qu'on présente Yves Sageot. Moi, je voulais juste vous dire que donc ce produit d'exception, l'Armagnac, vous le qualifiez déjà de pépite en 2018. Donc, vous nous avez dit que vous ne faisiez pas d'exportation, et cependant, c'est quand même un produit qui, j'ai pu lire, qui à l'exportation avait une progression fulgurante, parce que je crois que les Chinois et les Russes sont très amateurs de cet alcool.
Alors déjà chez les Russes en ce moment, c'est un peu compliqué.
Forcément, bien sûr.
Mais
en dehors de la guerre.
Alors si vous voulez, on partait de très bas sur ce produit au niveau export. Effectivement, il est en forte expansion. Mais le cousin cognac, je dirais, par contre, lui est très implanté parce que derrière, on a des grands groupes. Que ce soit Hennessy, que ce soit Rémy Martin, etc., et qui ont des moyens en termes de développement et de marketing et de communication à l'international, qui ne sont pas les moyens de l'Armagnac. L'Armagnac, c'est quand même des artisans vignerons de père en fils. Pour vous donner un ordre d'idée du marché, c'est de la production d'Armagnac, c'est 20 fois moins que le cognac.
D'accord, oui. Oui, donc c'est un produit beaucoup plus confidentiel.
Voilà.
Oui.
Donc effectivement, il y a des marchés sur la plupart des épicuriens amateurs vont aller plus préférer l'Armagnac que le cognac. Mais effectivement, la mise en disponibilité. Après, vous parliez du marché de la Chine. La Chine, il y a deux marchés sur l'Armagnac. Il y a le marché d'exception qui est les nouveaux riches, entre guillemets, qui ont pas toujours forcément le goût, mais qui
c'est un must
pour la para, si vous voulez, pour la para, d'avoir une bouteille qui a 50, 60, 70 ans d'âge. Et puis il y a un autre marché, c'est le marché du ce que j'appellerais de l'entrée de gamme, où là on peut faire un repas avec une bouteille d'Armagnac, mais vraiment du très jeune Armagnac, pas très cher.
Oui, et qui n'ont pas un grand intérêt, probablement.
Après, si vous voulez, c'est se lancer sur des marchés comme ça, on va être sur des marges très réduites.
Oui.
Qui vont pas sur des volumes très importants, donc des problèmes logistiques à gérer, où effectivement, pour moi par exemple, l'intérêt n'y est pas.
Je comprends.
Envoyer des conteneurs en Chine avec une marge quasiment nulle,
c'est
des produits.
C'est pas le but du commerce.
Moi, j'ai voulu me spécialiser et me développer dans vraiment de l'Armagnac d'exception sur des produits de très haute qualité. C'est pour ça que après il y a certains types de marchés sur lesquels je vais pas forcément essayer d'aller.
Très bien, mais il n'empêche que c'est ce que nous verrons tout à l'heure, que vous envisagez malgré tout d'aller plus à l'export désormais. On verra ça peut-être tout à l'heure avec le club export.
Petite anecdote, il y a 15 jours, j'étais le maire de Compiègne m'avait proposé d'être présent sur un salon sur un concours international de dressage. Oui. À Compiègne, le plus grand de France d'ailleurs, mmh. où il y avait 28 nationalités différentes. Les trois quarts des ventes que j'ai pu faire, c'est des délégations étrangères, États-Unis, Angleterre, Belgique, Suisse, et même Australie.
Alors, je voudrais qu'on revienne quelques minutes sur votre rôle de responsable commerce au sein de la CPME. En dehors de ce problème de Club Export, quel est votre rôle auprès des adhérents?
Eh ben effectivement, c'est de recueillir aussi les différentes doléances, de pouvoir les porter au niveau national auprès des ministres concernés.
Oui.
Puisque je fais partie également de la Commission nationale commerce.
D'accord.
Où il y a un petit reproche à faire à Bruno Le Maire, c'est qu'en fait, il a organisé au mois de décembre les Assises du commerce. Donc la commission, la CPME nationale m'a demandé de participer, sauf qu'entre le 1er et le 10 décembre, 4 demi-journées à Bercy, si vous voulez, quand vous êtes dans la grande période d'activité au niveau commerce.
Oui.
Clairement, c'est pas possible et le timing était pas bon.
Ah oui, oui.
Alors
oui,
effectivement, des grandes entreprises étaient présentes sur ce. On a quand même pu envoyer des représentants, mais effectivement, les grandes entreprises étaient présentes, que ce soit Amazon, oui, Carrefour, oui, oui. Auchan, etc. Mais je crois qu'on est aussi aujourd'hui dans une volonté politique de développer le commerce de centre-ville. Mmh. Et c'est peut-être aussi les petits commerçants qu'il faudrait écouter et recueillir leurs paroles. Et je crois que à ce moment-là, le timing n'a pas été bon. Enfin voilà, c'est.
Oui, c'est toujours un peu le problème.
Je vais passer le message à Madame Elinas.
C'est toujours le problème. C'est vrai que les TPE, PME, qui constituent le tissu économique de notre territoire, ne sont pas toujours. Même si les ministres le reconnaissent, que c'est le tissu économique. Mmh. Voilà.
Mais donc, si vous voulez, c'est comme faire des assises du tourisme au mois d'août.
Oui.
Voilà, c'est pas là où les acteurs seront présents
vont se rencontrer.
Voilà.
Vous êtes d'accord sur le fond, mais c'est le timing en fait.
C'est sur le timing,
mal
oui, effectivement. Je crois qu'on a quand même. Si on regarde le nombre d'emplois que ça représente,
oui.
Le nombre d'entreprises, et c'est là où il faudrait peut-être écouter la parole des TPE, PME, mmh. Qui sont quand même le tissu le plus important en France. La CPME est quand même le représentant des petites et moyennes entreprises. Et effectivement, nos adhérents ont besoin de développer leur activité. Et là, effectivement, on n'a pas eu l'occasion
oui,
de s'exprimer
regrettez.
Aussi.
Vous pensez que votre message est passé par rapport à ce timing?
J'en ai parlé avec,
avec qui
la députée de la 9e circonscription.
Oui.
J'ai fait passer le message. Je pense que même au niveau de François Asselin, le message est passé
oui.
auprès.
François Asselin, qui est le président
de la CPME nationale,
c'est ça. Madame Elimas, vous souhaitiez intervenir.
Juste une petite réaction. Moi, je suis complètement d'accord avec vous et sans revenir sur mon temps de parole précédent, c'est voilà ma liberté. Je vais l'exprimer aussi aujourd'hui. Quand ça va, il faut le dire. Quand ça va pas, il faut le dire aussi. Et en effet, on a travaillé beaucoup trop en verticalité. sans tenir compte justement, et ça a été clairement dit notamment par les Gilets jaunes, des corps intermédiaires, des associations, des élus et de l'ensemble de ce qui fait le cœur battant aujourd'hui de notre société. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de consulter plus et mieux notamment les PME, les TPE, parce que c'est là finalement que ça bouge le plus. Et quand le président de la République s'est engagé à changer la méthode, c'est en ce sens justement, en tout cas, moi j'y veillerai parce que je considère que c'est extrêmement important de travailler avec tous les partenaires et tous les acteurs et de bâtir ensemble. Quand je vous disais la réunion publique du 30, eh bien voilà, typiquement aussi, on pourrait très bien organiser des réunions publiques avec l'ensemble des commerçants, des artisans, des petits entrepreneurs locaux pour voir comment on peut mieux travailler avec eux. Donc je vous rejoins sur ce point. Je pense que le timing n'était pas bon. Vous pouvez compter sur moi pour partager auprès du ministre.
Merci beaucoup, Madame Elimas. Alors, Yves Sageot, je m'adresse à vous maintenant. Merci, Thierry, pour ces précisions. On reviendra sur le Club Export. Donc, Yves Sageot, vous êtes le président de Rhodes Taverny SAS, une entreprise industrielle. Expliquez-nous ce que vous faites, Yves Sageot.
Alors, déjà pour commencer, c'est beaucoup moins ludique que l'Armagnac. Hein.
On n'est plus du tout dans le même domaine. Il faut que vous vous rapprochiez.
On n'est plus du tout dans le même domaine. Comment dirais-je ? Donc, Rhodes Taverny, c'est une entreprise industrielle, capitaux français. Une petite entreprise qui, dans la métallurgie, qui fabrique des bouteilles haute pression destinées à emmagasiner les gaz de l'air. On retrouve, ce genre de bouteilles dans l'industrie, dans le médical, chez les gaziers, tels que des groupes comme Messer, par exemple. On va retrouver nos bouteilles dans la conception des radeaux de sauvetage, dans le secteur maritime, pour les gaz d'extinction qui vont permettre de protéger les grosses turbines moteurs des paquebots, par exemple. Oui. On va retrouver ça dans la protection incendie des grands bâtiments tels que vous en connaissez à la Défense, pour vous donner une idée
un petit peu simple, facile
à comprendre. Par contre, il y en a aussi dans le nucléaire, etc., quoi. Donc, c'est un secteur assez spécifique et qu'on a, que j'ai racheté. Je faisais partie du groupe. J'étais dans le quatuor, on va dire, de quatre dirigeants du groupe Rhodes, et j'ai racheté cette filiale que j'avais créée dans le groupe. Je l'ai rachetée en 2004 pour faire cavalier seul, tout en restant malgré tout conseiller auprès de l'ex-président du groupe auquel j'appartenais, et c'est bien normal, on ne mange jamais la main qui nous a nourris.
Je trouve ça fondamental.
Et voilà, grâce à ça, on en a fait une petite entreprise tout à fait autonome, mais qui travaille avec des groupes importants.
Ouais.
Et comme on avait déjà cette culture de l'export, grâce à notre appartenance au groupe initialement, j'en ai profité pour mettre à profit cet avantage et de lancer notre entreprise sur l'export il y a maintenant pratiquement 8 ans.
Très bien. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein de la CPME, vous êtes le référent Club Export.
Alors, on a la chance à la CPME, Thierry l'a expliqué, là, le CPME 95, d'avoir, un président qui...
Très actif. Laurent Pillat.
Oui. Que je salue, s'il m'écoute. Et vraiment mettre l'accent et qui a créé cette structure-là, dont j'ai accepté d'en être un des éléments avec Thierry et malheureusement
Vincent Bosch
qui est absent
avec nous, mais
pour raison personnelle qu'on salue au passage. Et puis on va essayer de sensibiliser les chefs d'entreprise vraiment les petites entreprises, puisque nous la CPME, il faut bien rappeler que c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises, et je fais moi-même partie de la commission nationale du commerce international dirigé par Mathias Fekel. On va essayer, nous, grâce à tous ces, on va dire, ces éléments avantageux, d'amener les petites et moyennes entreprises du Val d'Oise à se lancer à l'export. Il faut savoir une chose qui est majeure, après j'arrête, mais je suis tellement passionné par le sujet. Il faut savoir qu'il n'y a pas, en TPE, il n'y a pas 20% des TPE qui ont tenté, je dis bien tenté, l'export.
Très bien, merci beaucoup Yves Sajonon. Je ne voulais pas que vous dévoiliez tout le reste de l'émission, mais voilà, on va marquer une nouvelle pause avant d'aborder donc ce fil rouge de l'émission, l'ouverture du club export de la CPME 95. À tout de suite.
Je ne sais pas où je vais, ni vers quoi je vais, mais j'avance tout droit, toujours tout droit. Et je reprends mon souffle, mais je continue la course sans écouter ces voix qui veulent me retenir. Je n'arrêterai que devant l'océan, devant l'océan fini. 100 fois plus grand que moi, 100 fois plus grand que nous. Rien n'est plus réel que les reflets du sel argenté de perles qui brillent et ruissellent. Comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras. Devant le vide et le ciel, dans mon dos s'ouvrent mes ailes et je compte jusqu'à 3. Quand je me mens, quand je ne suis plus sûre de comprendre mon propre cœur, je vais me chercher ailleurs. La chute n'est que meilleure quand on prend goût à l'inconnu. Oui, j'ai choisi le bleu. Comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras. Devant le vide et le ciel, dans mon dos s'ouvrent mes ailes et je compte jusqu'à 3.
En Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Merci d'être resté avec nous. À mes côtés ce matin, deux chefs d'entreprise venus nous parler du lancement du club export de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Val d'Oise, la CPME 95. Donc, ces deux invités sont Thierry Poignant, fondateur et président de PBD.com. Je l'ai bien dit.
Bravo.
Une entreprise qui distribue un produit d'exception, et au sein de la CPM 95, vice-président commerce. Et Yves Sageot, président de Rhodes Taverny SAS, une entreprise industrielle pour la CPM 95 et référent Club Export, toujours pour cette confédération des petites et moyennes entreprises. Alors, la CPM 95, en effet, va devenir l'acteur indispensable pour accompagner des entreprises valdoisiennes à l'international et centraliser les actions territoriales. À cette occasion, Laurent Pillard, président donc de la CPME 95, convie les adhérents et adhérentes à la première réunion d'information du Club Export qui aura lieu jeudi 16 juin de 9h à 11h, parc d'activité des Béthunes, 11 bis avenue de la Mare à Saint-Ouen-l'Aumône, 95 310. Ce club invite les dirigeants importateurs et exportateurs à se réunir, que vous exportiez ou souhaitiez exporter. L'inscription, il y a une adresse pour l'inscription qui se retrouvera bien sûr dans le podcast de notre émission. Donc là, je m'adresse à tous les deux, Thierry Poignant et Yves Sageot. Comment est née, enfin vous nous en avez dit un petit mot Thierry tout à l'heure, comment est née cette volonté de créer un club export au sein de la CPME? Vous prenez la parole à tour de rôle comme vous le souhaitez.
Je vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en fait le souhait est de pouvoir donner accès aux entreprises du 95 à cette possibilité de développement de business, puisqu'en fait aujourd'hui avec ce qu'on a vécu avec le Covid il faut savoir s'adapter, et l'adaptation c'est peut-être aussi d'aller chercher sur d'autres marchés la possibilité de se développer. Et donc nous en avons discuter dans les objectifs de Laurent Pillard lors de son élection il y a un peu plus d'un an. L'idée a été de dire que effectivement il fallait accompagner les entreprises, alors soit sous différentes formes, soit leur donner des pistes, leur faire du partage d'expérience, mais aussi peut-être aussi leur donner l'envie d'aller chercher ces nouveaux marchés. Et on s'appuie sur des gens comme Yves qui pratique l'export et qui se développe à l'export de façon importante, et donc qui sont des référents, et c'est pour ça que Yves est aussi venu avec nous sur cette opération. Et puis également Vincent, que je salue, qui je souhaite bon courage. Et l'idée vraiment c'est de faire cette première rencontre le 16 juin. Le 16 juin c'est ouvert aux adhérents de la CPME mais aussi aux non-adhérents.
D'accord, c'est bien de le préciser.
L'idée c'est
de fédérer un maximum.
De fédérer les entreprises qui n'y avaient peut-être pas pensé ou peut-être ont songé, mais
ça leur paraît trop
face
compliqué.
À la difficulté. Et là, Yves pourra donner beaucoup plus d'éléments que moi, puisqu'il est bien placé au niveau export. Mais c'est vraiment de leur donner la volonté. Et le but, le 16 juin, le matin, on a quand même défini une stratégie. Mais c'est aussi de que ces entrepreneurs soient aussi source force de proposition pour justement fédérer et développer ce club de partenaires. Je pense que Yves,
Yves Sageot, je vous en prie.
Oui, j'achète l'idée, oui.
Vendu.
Tu me fixes ton prix. C'est tellement complexe ce que dit Thierry, mais je veux juste compléter.
Je vous en prie.
Les chefs d'entreprise que nous ciblons, pour la majorité, alors surtout dans le secteur industriel, de production, on va dire, de production. Il y a une grosse nuance entre, on va dire, le e-commerce et le secteur, on va dire, production. Sur la France, on est en train.
C'est pas du tout les mêmes, les mêmes critères.
Pas du tout. On est là avec, un certain accent, notamment du gouvernement, et je suis totalement d'accord avec ça, qui dit il faut relocaliser la production sur la France. Pour relocaliser, ça va déjà être un vaste programme, et économiquement, on a besoin de développer, je parle pour les petites entreprises, les marchés sur l'export. Le marché national, à terme, va être trop petit. On s'est aperçu, je vais parler pour mon cas,
oui, je vous en
mais
prie.
Après tous, je fais
oui.
partie de ces oui, petites entreprises.
Vous êtes un bon exemple.
On a subi la Covid pendant pratiquement 2 ans. Rod Taverny s'en est sorti pratiquement, mais sans difficulté. Enfin, j'aurais préféré être meilleur, mais Rod Taverny s'en est sorti sans dommage. Rod Taverny rembourse déjà son PGE, etc. Je cite tout ça parce que c'est
oui,
ça fait partie
concrets.
De la vie des petites entreprises. Mais on a continué de faire du commerce à l'extérieur, du commerce extérieur, notamment avec l'Afrique de l'Ouest et avec le Maghreb. Et je peux vous dire que l'année, surtout l'année 2020, où là on est en pleine, on savait pas où on allait, il y avait toutes les mises en place qui se faisaient, on s'en est sorti grâce à un marché spot qu'on a trouvé sur le... Je m'étais déplacé 2 ans avant et il est tombé, comment dirais-je...
au bon moment.
Oui, oui, oui.
Parce donc, que vous aviez fait tout ce qu'il fallait
évidemment,
en amont.
Évidemment. Et pour les chefs d'entreprise, on va dire, de notre taille, faire de l'export pour beaucoup, je disais tout à l'heure, juste avant d'arrêter ma première intervention, qu'on n'était pas 20% à avoir osé l'export. Et il faut savoir que pour ces gens-là, les structures sont souvent trop petites et c'est bien normal puisqu'économiquement, vous pouvez pas supporter une masse salariale trop importante parce qu'il faut savoir qu'une petite entreprise est vite en difficulté à partir du moment où il y a un chiffre d'affaires qui baisse ou en l'occurrence une commande qui devait tomber qui n'arrive pas, etc. Donc il faut savoir que le personnel, la masse salariale dans une petite entreprise est majeure. Donc ça veut dire que le chef d'entreprise, le dirigeant est bien souvent, je vais parler un peu péjorativement, le nez dans le guidon.
Ouais, donc c'est une réalité.
Je vais prendre un chaudronnier ou je ne sais quoi, lui va être plus souvent occupé à l'atelier à souder, à corriger ses plans, à collaborer avec ses compagnons, etc. Et là, le problème, c'est qu'il faut se dire, je m'assois,
oui,
je me fais entourer,
je m'arrête un peu,
et je fais une étude. Et là, j'arrive à la CPME, ce que Thierry expliquait tout à l'heure. Mon engagement, celui de Thierry, celui de Vincent, c'est de dire, puisqu'on est conscient de ça, on va monter une structure, on va monter une écoute pour dire, contactez-nous, on va prendre du temps avec vous, on va se poser, on va s'asseoir, on va regarder ce que vous voulez faire,
réfléchir. Et
éventuellement, grâce à notre expérience, bien qu'on ne détienne pas la science infuse, mais grâce à notre expérience, on va essayer de vous aider et de vous montrer que d'aller vendre à Bruxelles, c'est pas plus loin que d'aller vendre à Lyon, que d'aller vendre à Londres, c'est pas plus compliqué que prendre un avion pour aller à Marseille. Voilà, en gros, c'est ça.
Alors Yves Sageot, merci de toutes ces précisions. On a bien compris que l'internationalisation est un fait établi, que doivent prendre en compte de nombreux dirigeants d'entreprise. Sauf que comme tout changement ou évolution, l'export représente sans doute une opportunité, mais aussi un risque. Et puis une vraie question pour de nombreux dirigeants, dois-je ou puis-je me tourner vers l'export ? Et une autre question... Il faut avoir un produit exportable pour exporter. C'est une évidence. Donc, qu'est-ce que vous me répondez à ça?
Ah bah, vous avez complètement raison. On peut pas exporter tout. Non.
Et n'importe quoi.
Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le e-commerce, c'est beaucoup plus simple. Je vais simplement dire les choses, mais on peut dire qu'avec un clic, on arrive à contacter l'étranger. Facilement.
Bien sûr, oui, aujourd'hui.
Et par les réseaux même.
C'est plus un problème.
Facilement.
Oui.
Là, il faut, trouver des gens, des produits manufacturés, je veux dire, c'est pour ça que je parlais de la production. Là, je vais vous citer un exemple. Pourquoi je suis optimiste là-dessus. Quand on a décidé de... Je suis désolé, je parle un peu de mon entreprise.
Non, mais c'est un peu... Vous êtes là pour ça, hein, Yves,
c'est pas,
je vous en prie.
Oui, je l'ai vécu, je l'ai fait. Mmh, ouais, c'est, enfin, on
absolument.
L'a fait. C'est une équipe.
Il n'y a pas de meilleur exemple que ce qu'on a vécu.
Bon, alors, quand on a démarré, quand on a pris la décision de dire on s'en va à l'export, on n'est pas parti comme ça, la fleur au fusil. J'ai personnellement, on s'est dit, on a un produit métallurgique, un produit qui peut être utilisé dans le monde entier, qui est utilisé dans le monde entier. On va pas tout de suite se lancer dans le dur, c'est-à-dire aller sur le marché allemand, anglais, je veux dire tous les pays développés qui savent faire aussi bien que nous. Notre politique elle a été d'aller vers les pays qui ont une envie de se développer, qui n'en ont pas encore les moyens, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest, qui se trouve actuellement avec des gens qui ont envie d'évoluer, des cadres qui sont formés chez nous en Europe ou au Canada principalement, qui ont une envie pour leur continent d'avancer. Et on s'est dit, on parle la même langue. C'est un gros avantage. On parle la même langue. On est facile à joindre.
Pour communiquer, c'est essentiel.
Voilà. On va aller... Alors, ils arrivent à se faire livrer par la Chine, etc., puisque la Chine s'implante là-bas, est implantée même. Notre politique, elle a été de dire étude de marché. On a vu où il fallait se lancer, durcir. Notre politique a été de dire, écoutez, je connaissais l'Afrique quand même. Il faut, on va vous imposer, si vous avez besoin de 50 bouteilles azote, on va vous dire, ouais, mais un cargo, il faut en mettre 100 ou 150,
oui, il y a
etc.
des containers, oui.
Si vous voulez de la bouteille argon, je cite des gaz de l'herbe, c'est notre métier, on n'en veut que 20, on va vous dire, non, il en faut 100 parce que nous, on met pas. Notre politique a été de dire, on va s'imposer grâce à notre diversité. On va savoir dire à notre client, écoutez, ça va peut-être être un petit peu plus cher, mais par contre, on va vous livrer exactement ce que vous avez besoin. Ça veut dire que si vous avez besoin que de 20 bouteilles, on vous en propose 80, les 80 vont pas dormir sur le port. Je parle, par exemple, le Sénégal, le port de Dakar ou quelque chose comme ça. Les 100 bouteilles qui vont être livrées par nous, c'est-à-dire 20, je reprends mes 20 azote, mes 80 argon ou je ne sais quoi, vont être utilisables tout de suite. Donc, ils vont payer un peu plus cher, forcément, puisque on n'est pas, c'est pas de la grosse production. Mais, par contre, en trésorerie, ils vont garder la trésorerie des 80 bouteilles qui ne servent pas. Ils vont garder.
C'est ça. Oui.
Donc, et c'est ça qui a fait qu'on s'est imposé. On commence à même bien s'imposer. Et là, maintenant, je disais tout à l'heure, on est sur le Maghreb, on est sur l'Italie, on est un petit peu sur l'Allemagne, on a tous ces pays sur l'Angleterre, malgré le Brexit, on est en train de bien asseoir.
Développer ce secteur.
Voilà, ce secteur.
Merci Yves Sajo. On va encore faire une nouvelle pause et puis ensuite j'interviewerai Thierry Poignant sur son désir d'exporter plus précisément. À tout de suite.
Je ne joue pas au conquistador. Tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amor. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boudes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï 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 laï, laï laï laï. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort. Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord. Dans mon cœur, toi, tu voles encore. Je te promets, je vais rester fort. Je vais rester fort. J'avoue, j'avais déjà donné. On m'avait déjà tout repris. Je pourrais tout abandonner. Si on me l'avait dit, encore de toi. On pourrait s'en aller là-bas, toi et moi. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint.
mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï 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 laï. Moi j'oublie tout quand tu danses.
France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Avec à mes côtés ce matin, deux chefs d'entreprise venus nous parler du lancement du Club Export de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Val d'Oise, la CPME 95. Thierry Poignant, fondateur et président de PBDcom, une entreprise qui distribue de l'Armagnac notamment, et au sein de la CPME 95, vice-président commerce, et Yves Sajot, président de Rode Taverny SAS, une entreprise industrielle et pour la CPME référent Club Export. Alors nous avons bien compris que aujourd'hui il était nécessaire d'exporter pour diversifier son marché et puis mieux subir les crises, hein, comme nous en avons vécu une il y a tout récemment. La question que je voulais vous poser, donc vous Thierry Poignant, vous souhaitez maintenant vous diriger vers l'export. Yves Sajot nous a donné une feuille de route un petit peu pour suivre ses conseils. Vous-même, quelle est votre piste aujourd'hui pour vouloir exporter?
Alors effectivement, le souhait d'export, il est là puisqu'on est quand même sur le produit, les produits que je distribue sur des marchés niches.
Oui.
Donc l'idée est d'élargir ce marché et de pouvoir justement aller vers l'export, que ce soit en Europe ou sur des pays qui sont très intéressés par ce genre de produit. L'Asie, il y a un développement aujourd'hui sur ce genre de produit qui est assez important. J'ai eu l'occasion avec le CEVO d'aller au Japon et de rencontrer des distributeurs
qui n'attendent que ça.
Qui n'attendent que ça, donc à moi de mettre en place. Et l'idée de ce club, c'est effectivement de réunir les acteurs aujourd'hui d'export adhérents de la CPME, mais également aussi de mettre en lien avec les différents organismes existants. Qui peuvent aider à l'export et où là on va avoir un rôle aussi, c'est on pourra aussi intervenir avec la que ce soit la CCI, avec le CEVO, avec
oui, avec toutes les structures existantes du Val d'Oise.
Sur il y a quelques temps, j'avais bénéficié du TPUP,
oui,
qui est de la Chambre de commerce, qui permettait aussi de financer en partie ces opérations d'export. Donc l'idée est effectivement de fédérer autour de ce projet tous les acteurs possibles et de donner aux entrepreneurs. La plupart des adhérents, c'est pas des boîtes du CAC 40.
Oui, c'est ça.
Une boîte du CAC 40, elle a son service export, elle a son réseau,
évidemment.
Elle a Là, en fait, c'est le chef d'entreprise, lui, qui gère tout de A à Z et qui doit essayer de trouver ses solutions. Et ces solutions, il a besoin d'être, ce qui est mon cas, d'être accompagné. Ça va être sur pour comment garantir les paiements, oui. Parce que là on va sur des marchés où les sommes vont peut-être être un peu plus importantes. Et est-ce qu'une société, une TPE peut faire face à un problème de règlement?
Oui, bien
donc
sûr.
Il y a des moyens aujourd'hui.
Et c'est là où la CPME sera une force pour tous ses adhérents.
C'est aussi bien apporter les conseils par nos sages. Yves Sageot, notamment, et puis également mettre en relation sur des organismes qui vont pouvoir aussi aider. Ça peut être Business France, ça peut être
la COFAS.
Ah oui.
C'est l'idée, elle est là. C'est toi, chef d'entreprise, tu veux exporter. Par contre, au lieu que tu te débrouilles tout seul, on va donner des ficelles et on va pouvoir t'accompagner ou t'envoyer, t'orienter sur les bonnes structures pour développer ton business.
Merci Thierry Poignant. Yves Sageot, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais compléter juste ce que disait Thierry. On a aussi un avantage dans le 95, c'est qu'on a quand même notre chambre de commerce qui est aussi
très active. Oui.
Mais un point fondamental je parlais tout à l'heure du problème français, qu'il y a très peu d'entreprises qui se lancent à l'export. On compare souvent la France avec l'Allemagne. Il faut savoir que en France, le tissu économique est principalement composé d'entreprises inférieures à 50 personnes.
Oui, oui, oui.
Je veux bien être bon, aller jusqu'à 100,
mais c'est de plus en plus rare.
Les Allemands ont un autre modèle. Ce sont déjà des grosses PME. Par rapport à nous, ce sont des entreprises de 1500 à 1000 personnes pour la majorité. Ça veut dire, je reprends encore ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à nous, ils ont la possibilité économique de supporter un service export. Ce qui fait que pour eux, et en plus, ils ont un tissu industriel beaucoup plus développé que nous.
Ils n'ont pas fait la même erreur que nous.
Voilà. Mais il y a quand même une volonté politique de faire marche arrière. Et je redis encore une fois, c'est très bien. Et là, ce gros problème, ce gros déficit qu'on a par rapport à l'Allemagne, c'est ça. C'est qu'on n'a pas, notre petite entreprise ne peut pas supporter un service export tant qu'elle n'a pas commencé à faire du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que là, on a une action prépondérante à mener, c'est d'essayer de faire.
Oui.
Par rapport à nos petites entreprises, de leur dire, mais non, changez votre fusil d'épaule, on va vous montrer, il y a des ficelles à tirer, on va vous les présenter, on va peut-être vous aider même à les tirer avec vous. Et ensuite, leur montrer comment ils peuvent s'entourer. Il y a même des commerciaux freelance. Moi, j'ai commencé comme ça. On a commencé comme ça, notre société. On a pris un commercial que je connaissais, qui faisait que de l'export. Et on a fait ensemble cette fameuse étude de marché, etc., sur 3 pays africains, etc. Et on a démarré comme ça. Le principe...
Oui, il a été l'interface entre vous et le pays.
Oui. Je lui ai appris notre métier et notre produit, etc. On a collaboré, je me suis déplacé avec lui aussi. Mais le deal, c'était... Écoute, comme il avait déjà un portefeuille, ça a été de dire, écoute, au lieu de te donner tant de commissions au départ, on t'en donnera plus à la première affaire. C'est-à-dire que ça permettait à Roth Taverny de ne pas sortir d'argent avant de faire du chiffre d'affaires, parce qu'on sait très bien que la trésor, je redis encore une fois, c'est la corde sensible
d'une entreprise. Ouais.
Voilà. Mais il y a des gens spécialisés qui, eux, peuvent aussi aider nos petites entreprises.
Écoutez, je vous en parlais très bien. Je pense que vous allez convaincre tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui ont envie de passer à l'export. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir exporté a contribué à améliorer la notoriété de votre entreprise ?
Oui, absolument.
Oui.
Absolument. Et un point important, on le dira jamais assez, vous savez qu'on a énormément de mal à recruter, mais je peux vous dire qu'au sein d'une entreprise, ça amène une certaine fierté pour le personnel de voir les conteneurs ou les caisses où c'est marqué dessus un pays qui se trouve au bout du monde, quoi. Le personnel, qu'il soit administratif, qu'il soit technicien, Et moi le premier.
Oui, oui.
De voir que notre produit parcourt le monde entier, je peux vous dire que c'est une certaine fierté.
Ah oui, oui, je comprends.
Et ça amène un plus psychologique aussi. Alors, au niveau économique, non, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais au niveau psychologique, oui.
Et quand vous vous rendez dans le pays et que vous voyez votre produit, c'est encore plus formidable.
Ben, ça fait du bien.
Oui, c'est vrai.
Ça fait du bien.
C'est vrai. Une question que je voulais vous poser pour nos auditeurs et auditrices. Fiscalement, est-ce qu'on a intérêt à exporter ou pas ?
Alors, fiscalement, déjà on a intérêt à exporter parce que, je redis encore une fois, ça fait gonfler le chiffre d'affaires. Donc fiscalement, si on gonfle le chiffre d'affaires en général, si on fait du chiffre d'affaires et qu'on est géré normalement, on dégage des bénéfices. Donc on crée, c'est sûr qu'on crée un impôt supplémentaire pour l'État, pour le bien-être de tout le monde. Le seul, je veux dire, vraiment avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de TVA.
Ah oui, voilà. Oui, voilà. Je croyais que vous alliez dire l'inverse. Voilà. Oui, voilà, il n'y a pas de TVA. Donc, voilà. D'accord, c'est un vrai avantage.
Voilà, puisque la TVA, c'est purement.
Évidemment, interne. Évidemment. Donc vous, Yves Sageot, on a bien compris que vous vouliez sensibiliser les TPE industrielles à l'export. Vous avez des touches depuis que vous avez envie de lancer ce club export par rapport à certaines entreprises?
Bah écoutez, j'en parle autour de moi et ce que je ressens, et c'est là où je suis encore une fois certain de notre action, qu'il faut bien la structurer, c'est que on sent encore en gros c'est ça c'est pas mal, mais en gros on sent le côté où il faut qu'on leur mette le vent dans le dos, quoi.
Oui, oui, oui.
C'est ça. Il y a, je redis encore une fois, l'export, pour beaucoup, c'est l'éloignement, c'est loin, c'est pas notre porte. Et je redis encore une fois, nos chefs d'entreprise actuellement ont, déjà parce qu'ils peuvent pas se permettre de dépenser, etc., et ont trop la tête dans le guidon.
Alors on va essayer de quand même tout dire hein, à propos de l'export. Il y a forcément des avantages, vous nous en avez parlé, mais est-ce qu'il peut y avoir des inconvénients?
Ah, alors l'inconvénient majeur, c'est se protéger. Il est majeur, il est fondamental, il existe. Il
c'est
peut
ne pas
malheureusement être,
payé.
Être vécu, c'est assurer les règlements.
Oui. Oui, d'ailleurs,
c'est majeur.
Je crois qu'on se fait payer avant.
Et si je peux, une des choses importantes, c'est aussi assurer la livraison.
Oui, bien sûr.
Effectivement, sur certains pays, de sécuriser la livraison, c'est aussi un point assez important, je trouve.
Exactement. Et on a quand même, on a une chance dans notre pays, c'est qu'il y a quand même de très bons transitaires.
Oui, c'est-à-dire que là, vous devez faire appel à des
spécialistes du transport, des transitaires,
avec peut-être des assurances
qui
sont costauds.
Oui, oui,
oui,
il faut.
Ça.
Mais encore une fois, tout ça, ça fait partie de la stratégie export. L'export a peut-être un coût, mais je vous dis, je vous répète, qu'elle vaut mille fois la peine
largement
d'être. Ah oui, incontestablement. Je redis encore une fois, le seul problème majeur qu'il faut arriver à aborder avant d'envoyer ces produits, c'est le règlement.
C'est ça. Oui, donc il y a.
Alors il y a des organismes qui vous aident, les banques vont vous aider aussi.
Oui, il y a toute une liste de documents
bien sûr,
à remplir.
Bien sûr. Et après, moi j'ai certains clients. Moi je suis quand même encore une génération où on aime la proximité. On se contente pas d'un clic. On reçoit les gens, on discute,
oui.
etc. Mais j'en ai certains où je leur dis parler un petit peu, mais le produit partira pas tant que le règlement n'est pas versé.
Bien sûr, oui,
mais ça, faut se permettre de le dire.
Garantie.
En gros, il faut dans l'export, il faut le dire. Si vous avez du mal à si vous sentez déjà qu'il y a des réticences sur les délais de règlement, etc., il faut
pas
y aller.
C'est pas la peine.
Il faut pas y aller. Mais le bouillon, comme on appelle ça vulgairement, le bouillon, il peut être terrible, mais il y a tellement là, ça représente 10%. Le restant, ça va bien.
Donc, oui, d'autant
mais il faut le savoir.
Oui, c'est ça.
Parce
d'autant
que si ça arrive, ça peut être terrible.
Oui, d'autant que dans votre cas, ça doit être des sommes importantes, puisque ce sont des
proportionnellement à l'entreprise, oui.
Oui, c'est ça.
Oui. Mais nous, bon, pour vous donner une idée, on est à peu près export. Pour l'instant, on est à 30%.
Voilà. Alors, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que il faut peut-être pas que son pourcentage de chiffre d'affaires soit trop important au niveau de l'export?
Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, voilà, quoi. Hein, c'est toujours
avoir
pareil.
Un seul client, ouais. Ou c'est ouais. Le même principe.
Ouais. Ouais. Et si je peux me permettre aussi un des points de vigilance à avoir, puisqu'on l'a vécu il y a pas longtemps, depuis 3 mois, c'est la diversification au niveau des exports.
Absolument.
Des lieux, des zones.
Expliquez-nous.
Imaginez, vous avez développé l'export avec la Russie. Depuis 3 mois, oui, vous faites comment? Vous avez développé votre chiffre d'affaires, vous avez embauché, vous avez développé votre activité et l'activité s'arrête.
Oui, oui. Alors que rien au départ
donc,
ne laissait.
D'avoir une diversification et comme je reprends l'expression de d'Yves, c'est pas tous les œufs dans le même panier, parce que ça peut être une problématique.
Merci de préciser. Alors, ça. Je pense que c'est de toute façon un acte de gestion pour n'importe quelle entreprise.
Oui, mais ce que dit Thierry, c'est
fondamental.
Vrai, c'est fondamental aussi. Mmh. Et il faut savoir que dans nos à peine 20% de primo, on va dire primo exportateur même, hein, 55%. C'est des stats que j'ai. Alors ça évolue.
Oui, ça
mais
ça
pour
bouge.
Donner une idée, 55% sont dans l'UE.
Ah oui, très bien.
Ce que donc, je disais tout à l'heure que, oh là, c'est loin, l'UE quoi. Parce que, or, je reviens encore dans cela, il y a le e-commerce hein, quand même. Hein.
Oui.
Il y a le
toujours.
E-commerce. Il y a le e-commerce. Mais moi, je continue à dire que dans le secteur industriel et je continue à dire qu'on veut ramener en France les productions, etc. Il faut envoyer quoi dans le monde. Ouais, le monde est grand. Il faut envoyer. Il faut savoir que sur un marché, si vous allez sur un marché international et vous donnez comme objectif, mais dans 5 ans, si je ne prends que 3%. Mais c'est 3% que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas tenté.
Complètement, complètement.
Il ne faut pas y aller en disant je vais tout manger, hein, c'est pas possible.
Donc cette initiative de la CPME 95 de lancer ce club export, pour vous est une excellente initiative. Vous la validez totalement.
Ah bah, sinon je ne serais pas là.
Ah, c'est ça.
Donc je la valide et je pense que toute l'équipe sait, dont Thierry, Vincent et notre président, je pense que tout le monde sait que je le fais de bon cœur.
Oui, oui. Donc je rappelle que le 16 juin de 9h à 11h, la CPME 95 organise une première réunion d'information de son club export. Elle convie...
D'information et d'échange.
D'échange, oui.
Il faut que ce soit effectivement l'information descendante et l'information qui remonte.
Oui,
également.
Toutes les questions pourront être posées et vous y répondrez. Et donc sont conviés bien sûr les adhérentes et adhérents, mais aussi toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément adhérents de la CPME et qui ont envie d'exporter. Thierry Poignant.
Après, s'ils veulent adhérer à la CPME, ce sera avec plaisir. Il n'y a pas de problème.
Ça sera le bonus.
Mais l'idée, c'est vraiment de monter un club, qui soit efficace, où il y a vraiment une volonté de se développer et de réussir.
En tout cas, nous, on va vous suivre hein, aussi sur ce sujet. Vous nous tiendrez informés de la réussite de ce club e-sport, dont je ne doute pas que ça marche très bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous aurais pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre, Yves Sageot ou Thierry Poignant?
Je pense avoir été assez loquace. Donc il faut savoir que cette action-là, je le redis encore une fois, il faut... Pour démarrer à l'export, savoir dire, ça c'est aussi important. On ne prend pas un marché à l'export comme on prend un marché national. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un TGV ou son véhicule pour aller voir son client, puis rentrer et dire « bah ça s'est bien passé ». Ça. Non, l'export ça prend du temps.
Oui.
Il faut savoir qu'en moyenne, entre la première prise de contact et la réalisation d'un marché, il faut compter 2 ans.
C'est ça. Voilà, il faut absolument avoir ça en tête, qu'on va pas décider du jour au lendemain d'exporter.
Non. Alors tout est relatif, hein.
Oui.
Il va y avoir une exception qui va tomber, bien sûr, mais faut savoir ça.
Oui, entre la première, l'étude de marché, le pays vers lequel on va exporter, les conditions financières.
2 ans.
Bon. Thierry Poignant, vous nous avez parlé de l'Asie, mais vous allez vous y mettre quand alors l'export, précisément?
Je vais m'appuyer sur notre futur club
dans
export.
Dans deux ans.
Effectivement, s'il faut 2 ans. Pour avoir abordé d'avoir fait une première opération et déplacement au Japon, par exemple.
Oui,
au Japon,
oui.
Il y a une culture.
Ah oui.
Ce sont des gens très fidèles. Fidèles, mais
Japonais,
très exigeants, je crois.
Par contre, très long à donner leur confiance.
Oui.
Donc, j'ai fait une opération qui ne suffisait pas, mais après derrière il fallait aussi que j'ai les moyens
de continuer.
Bon, ce qui ne s'est pas fait par manque de budget.
Oui.
Mais voilà, cette info là, il faut l'avoir aussi avant. Si on peut la transmettre aujourd'hui, ça peut permettra à un futur exportateur qui souhaite attaquer le marché du Japon de pas faire essayer des one shot, mais effectivement d'essayer de construire dans la durée. Son opération pour pouvoir l'amener à bien.
Bien sûr.
Et voilà, c'est là où aussi les retours d'expérience qu'on aura au club va pouvoir apporter aussi aux entrepreneurs du territoire.
Oui, c'est peut-être là où l'absence de Vincent Bosch nous manque, puisque je crois que Vincent Bosch est gérant d'une entreprise qui est dans le financement, et peut-être que ce financement peut favoriser les futurs exportateurs. Je n'en dirai pas plus puisqu'il n'est pas là et que voilà. Mais j'espère qu'il viendra pouvoir nous.
Notamment,
nous expliquer,
c'est une de ses activités, effectivement.
Bah oui, c'est ça.
Mais il est aussi dans le groupe.
AGP. Ouais, oui, bien sûr. Moi, je l'avais reçu.
Qui réalise des.
Qui fait de l'exportation.
Qui fait de l'export,
De plus en plus. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir bien sensibilisés sur ce lancement du Club Export de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du 95. L'émission se termine. Juste avant de nous quitter, encore un mot de conclusion, Yves Sageot.
Bah, écoutez, en conclusion, je vais répéter la même chose. Le souhait, c'est qu'on réussisse à obtenir des résultats et à fidéliser, des primo-exportateurs dans le futur.
Très bien. Merci beaucoup. Thierry Poignant.
Eh ben, je voulais juste repréciser. N'hésitez pas à venir le 16 juin à 9h à Saint-Ouen-l'Aumône. Venez voir. Venez écouter, venez vous exprimer et on pourra faire quelque chose de très intéressant.
Écoutez, je compte vraiment
rendez-vous
sur cette
jour.
Émission, mais vous en avez parlé avec tant de passion que j'espère que nos auditeurs seront présents à cette réunion du 16 juin. Voilà, l'émission est terminée. Donc encore merci d'avoir été les invités de l'économie en direct.
Merci à vous.
Et de nous avoir fait
merci
partager
beaucoup.
Ce sujet passionnant et qui, j'espère, aura ouvert de nouveaux horizons à nos auditrices et auditeurs. Merci Francky pour avoir assuré la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous rappelle que vous pourrez l'écouter à tout moment avec le podcast sur le site de la radio idfm98.fr. Je vous retrouve mardi prochain, je serai là à 9h30 pour une nouvelle édition de l'économie en direct avec 3 nouveaux invités. D'ici là, belle journée, bon week-end. N'oubliez pas qu'il faut aller voter dimanche 12 juin. À mardi prochain, prenez soin de vous et de vos proches.